Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditrices et auditeurs dans le monde entier. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, jeudi 17 janvier 2019, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos tels que l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Et comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons également présenter des chansons indonésiennes. Bon, chers amis, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voanews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le vice-président Yusuf Kalla a eu des entretiens avec le premier ministre cambodgien Hun Sen. L'Indonésie encourage la réforme de l'opération de maintien de la paix du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'inauguration d'un nouveau terminal aéroportuaire dans toute l'Indonésie a eu lieu au centre de Kalimantan. Le commandant de la TNI a dit « Ne présumez pas que la force militaire de l'Indonésie est faible ». Le ministre du Commerce a dit « L'augmentation des importations non pétrolières et gazières indique que le développement et les investissements sont en course ». Le ministre du Commerce a invité les entrepreneurs américains à être optimistes et à renforcer leur collaboration. Et enfin, la création du Conseil de la culture asiatique AWC visait à restaurer la civilisation asiatique. Voici le journal complet. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla et le premier ministre cambodgien Hun Sen ont eu des entretiens bilatéraux mercredi matin à Lotus Blanc Resort à Siem Reap, au Cambodge, pour discuter du développement de la coopération entre les deux pays. À cette occasion, Yusuf Kalla a également remis directement la peinture faciale du premier ministre Hun Sen, réalisée par l'artiste indonésien Firdaus Alamhudi. Le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, A.M. Fahir, a déclaré mercredi à Siem Reap, au Cambodge, que lors de la réunion, les deux dirigeants ont discuté des moyens de renforcer la coopération économique. Basé sur les données de l'ambassade d'Indonésie à Phnom Penh, les données du commerce bilatéral entre l'Indonésie et le Cambodge de janvier à octobre 2018 indiquent une plus-value de 401,6 millions de dollars américains. Le gouvernement indonésien encouragera la réforme de la mise en œuvre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies durant son mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies de 2019 à 2020. Cela a été transmis par le directeur général de la coopération multilatérale du ministère indonésien des Affaires étrangères, Febrien Alfianto Rudiat, à Jakarta mercredi, cité par Antara. Selon lui, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2019-2020, l'Indonésie va obtenir des sanctions comme la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir mai 2019 et mi-2020. Pour cette raison, à la première présidence indonésienne au Conseil de sécurité de l'ONU, le gouvernement indonésien portera le thème des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Le secrétaire général de la province de Kalimantan Central, Farizal Fitri, a déclaré que l'inauguration du nouvel aéroport d'Indonésie par le président Joko Widodo serait centrée dans la ville de Palangkaraya le 7 février. C'est une fierté pour la région et le public. La splendeur du nouveau terminal de l'aéroport de Chili Riwut sera considérée par beaucoup de parties comme la porte d'entrée de Kalimantan Central. Farizal Fitri à Palangkaraya mercredi a expliqué que le gouvernement provincial a soumis plusieurs propositions aux gestionnaires d'aéroports. La proposition comprend entre autres la disponibilité d'un centre d'information qui présente les zones de Dayak comme réceptionniste au terminal d'arrivée la disponibilité de toilettes adaptées aux handicapés. Il a également proposé d'installer des photos d'orang-outang à l'intérieur du bâtiment afin de promouvoir le tourisme dans le Kalimantan central. Le gouvernement provincial souhaite que le nouveau terminal de l'aéroport puisse devenir l'une des icônes régionales afin que chaque passager qui vienne ici reconnaisse immédiatement l'identité du centre de Kalimantan à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'aéroport. Le commandant de la TNI, le maréchal TNI Hadi Cahyanto, a déclaré que les pays étrangers ne devraient pas présumer que la puissance militaire indonésienne était faible, de sorte qu'un avion étranger pouvait pénétrer facilement sur le territoire indonésien sans document officiel. Cela a été dit par le commandant de la TNI lors d'une conférence de presse des dirigeants du ministère indonésien de la Défense en 2019 à Jakarta mercredi. Le commandant de la TNI a déclaré cette question pour répondre aux actes de la TNI qui a forcé à descendre l'avion cargo éthiopien lundi 14 janvier. Selon lui, son action à forcer à descendre l'avion cargo vise à donner l'effet dissuasif à tous les aéronefs entrant sur le territoire indonésien sans document officiel. Le ministre du Commerce, Enggar Tias Tolukita, a déclaré que les importations non pétrolières et gazières étaient déficitaires en 2018 parce qu'il y a beaucoup de biens d'équipement et de matières premières qui entrent sans nécessité pour le développement. Cela a été dit par Enggar Tias Tolukita à l'ambassade d'Indonésie à Washington DC aux États-Unis mardi heure locale. Selon lui, la grande quantité de biens d'équipement et de matières premières entrant en Indonésie indique également que le développement et les investissements sont en course. À moyen terme, Enggar Tias Tolukita souhaite que l'Indonésie obtienne un large accès au marché et se développe sur des marchés non traditionnels afin d'accroître ses exportations. Le ministre indonésien du Commerce, Enggar Tias Tolukita, a invité les hommes d'affaires américains à rester optimistes face à l'incertitude mondiale et à continuer de renforcer leur collaboration avec le monde des affaires indonésien. C'est ce qu'a déclaré le ministre du Commerce lors de l'ouverture de la séance plénière du Forum des entreprises dans la salle du président de l'ambassade d'Indonésie à Washington, lundi heure locale ou mardi heure indonésienne occidentale. Lors de la réunion à laquelle est assisté par des représentants d'hommes d'affaires indonésiens et américains, le ministre du Commerce a souligné l'importance de resserrer toujours la coopération positive et constructive entre les deux pays. En outre, la coopération actuelle dans laquelle le monde est confronté à une incertitude mondiale tente d'établir des relations commerciales plus approfondies et un partenariat d'investissement plus global. Le vice-président Sukala a déclaré que la création du Conseil de la culture asiatique AWC visait à restaurer la civilisation asiatique à travers la coopération des partis politiques asiatiques. C'est ce qu'a déclaré le vice-président Sukala après avoir assisté mardi au lancement d'AWC au centre de convention Soha Siem Reap au Cambodge. Le vice-président a déclaré que jusqu'à présent, le Forum des partis politiques de la Conférence internationale des partis politiques asiatiques, ICAP, avait débattu davantage des domaines politiques et économiques. Par conséquent, le vice-président Sukala, l'un des initiateurs d'AWC, a proposé l'existence de l'approche culturelle entre les pays asiatiques pour construire la civilisation et maintenir la paix dans la région. À travers l'approche culturelle, Yusuf Kala a déclaré que le développement de l'Asie connaîtrait une augmentation, en particulier en termes de maintien de la paix. Le Conseil de la culture asiatique a été créé en tant qu'institution affiliée à la Conférence internationale des partis politiques asiatiques afin de développer la coopération dans le domaine de la culture entre les pays de la région asiatique. Serviteurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Serge Mulanten, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire ayant pour le titre Le débat du président et du vice-président 2019. 2019 est l'ère de la démocratie pour le peuple indonésien car les élections législatives et présidentielles se dérouleront simultanément mercredi le 17 avril. En ce qui concerne les élections présidentielles et vice-présidentielles, la Commission des élections générales, KPO, a organisé un certain nombre d'événements. L'un des événements est le débat présidentiel et de vice-président. Radio République Indonésie encourage la participation du peuple indonésien au vote par le slogan « Le vote est une victoire ». Radio République Indonésie diffusera avec trois autres chaînes de télévision le premier débat qui se tiendra à l'hôtel Bidakara, Jakarta, jeudi le 17 janvier 2019. Lors du premier débat du président et du vice-président, la Commission électorale générale KPU choisit les thèmes suivants: la loi, les droits de l'homme, la corruption et le terrorisme. Tandis que le deuxième débat qui se tiendra le 17 février 2019 aura pour thème l'énergie, l'alimentation, les infrastructures, les ressources naturelles et l'environnement. Le troisième débat qui se tiendra le 17 mars 2019 mettra l'accent sur les questions relatives à l'éducation, à la santé, à l'emploi, aux affaires sociales et à la culture. Le dernier débat qui se tiendra le 30 mars 2019 avec le thème « L'idéologie, la gouvernance, la défense, la sécurité et les relations internationales ». Le commissaire de KPU Wahyu Setiawan a déclaré que la Commission des élections générales avait donné la feuille de triche du débat aux candidats à la présidence et à la vice-présidence. En outre, dans le débat, KPU interdit aux partisans des deux côtés d'utiliser toute propriété ou tout attribut de campagne provocateur. Pour la mise en œuvre du débat, KPU n'invite que 500 personnes à assister au débat, y compris les anciens présidents et vice-présidents. Pour que le débat se déroule sans encombre, la commission, en collaboration avec la police de Jakarta, déploiera plus de 2000 policiers pour sécuriser le débat. Malgré le débat acharné, on espère que le débat présidentiel se déroulera dans le calme et la sécurité. Les équipes de campagne des deux candidats ont accepté de ne pas inclure de questions sensibles au débat. Plus important encore, les candidats doivent fournir des explications crédibles et logiques sur leur programme. Les gens veulent des promesses réalistes pouvant être accomplies. D'autre part, les électeurs sont également encouragés à être attentifs aux promesses des candidats afin qu'ils puissent choisir le meilleur leader pour ce pays. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous présentons maintenant l'histoire d'aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 17 janvier. Le 17 janvier 1961, le dirigeant congolais Patrice Lumumba a été tué. Patrice Lumumba était le chef d'anticolonial africain et le premier ministre de la République démocratique Congo qui a été démocratiquement élu après l'indépendance de la Belgique en juin 1960. Patrice Lumumba a restauré la dignité de son pays, mais il a été opposé par les Occidentaux, notamment la Belgique, la France et les États-Unis. Les trois pays ont alors comploté avec les régimes locaux du Congo, les chefs de tribus et l'armée pour renverser Lumumba. 10 semaines plus tard, la direction de Patrice Lumumba avait été renversée par un coup d'État. Il a ensuite été emprisonné et tué le 17 janvier 1961. C'est une action menée avec l'aide du gouvernement belge. Enfin, en 2002, le gouvernement belge a officiellement présenté ses excuses aux Congolaises pour son rôle dans le coup d'État et l'assassinat de Patrice Lumumba. Le 17 janvier 1948, l'accord de Renville a été signé par l'Indonésie et les Pays-Bas. L'accord de Renville est un accord entre l'Indonésie et les Pays-Bas négocié par la Commission des Trois Nations, les États-Unis, l'Australie et la Belgique. L'accord a débuté en décembre 1947 et a été signé le 17 janvier 1948 sur le pont du navire de guerre des États-Unis, USS Renville en tant que lieu neutre amarré au port de Tanjung Priok à Jakarta. Le contenu le plus important de l'accord de Renville est que les Pays-Bas ne reconnaissent que le Java central, Yogyakarta et Sumatra en tant que territoire indonésien, l'existence d'une ligne de démarcation entre le territoire indonésien et néerlandais. Les soldats indonésiens doivent quitter les zones contrôlées par les Hollandais. Mais l'accord de Renville est devenu brutal après que les Néerlandais aient lancé l'agression à Yogyakarta et arrêté le président Sukarno et le vice-président Mohammad Hatta. Le 17 janvier 1995, un grand séisme secoue la ville portuaire de Kobe. Un séisme d'une magnitude de 7,2 sur l'échelle de Richter a détruit la ville de Kobe au Japon. Il a provoqué plus de 6 400 morts et plus de 300 000 personnes sans abri. Chers auditeurs, c'est toute l'histoire d'aujourd'hui.
Sadari aku yang membuat kita berpisah. Ku sadari ini hanya emosi. Sesaat telah ku coba melupakanmu, namun aku tak mungkin bisa tanpamu. Lagi-lagi kamu. Sadari aku yang membuat kita berpisah. Ku sadari ini hanya emosi. Sesaat telah ku coba melupakanmu, namun aku tak mungkin bisa tanpamu. Lagi-lagi kamu ku tunggu.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était la première chanson intitulée « Toi encore » chantée par Abdul et de Café Theory. Et chers amis, soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voanews.id. Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée L'ONU Environnement est prête à soutenir la gestion durable de la tourbe en Indonésie. Le succès de la gestion de la tourbe en Indonésie attire l'attention du monde entier. Ceci est démontré par le soutien de l'ONU Environnement à l'Indonésie en tant que Centre international des tourbières tropicales, ou ITPC. L'ONU Environnement a bien accueilli le leadership de la ministre de l'Environnement et des Forêts, Madame Siti Nurbaya, dans la gestion des tourbières en Indonésie. Dans ce cas, ils sont également prêts à soutenir le Centre international des tourbières tropicales, notamment en matière de financement. Comme l'a déclaré Jason Sering, le directeur régional de l'ONU Environnement pour la région Asie-Pacifique, lorsqu'il est rendu au secrétariat temporaire de ITPC au bureau de l'Agence de recherche, de développement et innovation, au BLI du ministère de l'Environnement et des Forêts à Bogor, 10 janvier. Jason comprend également l'importance de la mise en œuvre immédiate des activités de ITPC concernant la rédaction de mécanismes de coopération entre institutions, les plans à court terme et les plans à long terme. Il espère qu'à l'avenir, le Centre international des tourbières tropicales pourra devenir le principal centre des données et de connaissances liées à la gestion de la tourbe dans le monde et qu'il pourra devenir l'entrée pour les décideurs et l'unité opérationnelle qui travaillent dans le domaine de la conservation de la tourbe. Le chef de l'Agence de recherche, de développement et innovation, M. Auguste Giustianto, qui représentait la ministre de l'Environnement et des Forêts, a dit « La raison de la fondation du centre, il a été créé pour que les décideurs, les praticiens et le public aient accès à l'information, l'analyse crédible et légitime et tous les autres outils nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre la conservation et la gestion des tourbières tropicales. » Il a déclaré qu'actuellement la présence de ce centre est nécessaire pour soutenir des actions massives avec le soutien de nouvelles connaissances, technologies et innovations. Le ministère de l'Environnement et des Forêts bien apprécié l'aide de l'ONU Environnement. Le soutien similaire a également été exprimé par le représentant de l'Agence de restauration de tourbe, Haris Gunawan. Il souhaite que ce centre puisse jouer un rôle dans les efforts visant à réduire les incendies de forêt et de terre en Indonésie. Le phénomène de El Nino devrait se produire cette année. Le Centre international des tourbières tropicales est la continuation de l'initiation de trois pays qui possèdent la plus grande tourbière au monde, à savoir l'Indonésie, la République démocratique du Congo et la République du Congo, lors de la discussion de haut niveau sur la politique forestière nationale et la gestion des tourbières à Jakarta le 30 octobre 2018. Chers amis, c'était Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta et merci d'être fidèle à notre antenne. C'était une chanson intitulée Windu et Devrin, chantée par White Sus. Chers amis, restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel, une rubrique sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici magazine culturel et cette fois je vais vous inviter à connaître plus sur les îles de Anambas. Les îles d'Anambas situées dans la province des îles de Riau, Sumatra. Elles ont été classées par CNN comme l'une des meilleures îles tropicales d'Asie ou le plus bel archipel tropical d'Asie. Ces îles sont rarement visitées par les touristes. Les îles offrent la beauté naturelle de la plage avec une mer bleu clair entourée de tortues, de poissons d'ornement, de magnifiques récifs coralliens et d'un lagune de sable blanc. Herman Ho, le rédacteur en chef de Boat Asia 2012, et Stuart McDonald, le fondateur et rédacteur en chef de Travailliste Organisation, suggérant aux voyageurs, notamment aux amateurs de plongée et de plongée en apnée, de se rendre à Anambas. Il y a 5 grandes îles à Anambas, à savoir l'île de Siantan, l'île de Matak, l'île de Mubur et l'île de Jemaja. La capitale de la résidence des îles d'Anambas est Tarempa, située sur l'île de Siantan. Cette résidence est établie depuis 2008. Sur plus de 260 îles, environ 50 ont des noms et 202 îles habitées. En tant que résidence ultra-périphérique, elle a un charme comme Raja Ampat en Papouasie qui est connu dans le monde entier. Pour visiter Anambas, vous devez d'abord vous rendre à Batam ou Tanjung Pinang par avion. Et ensuite, nous pouvons choisir de prendre l'avion avec le temps de trajet plus d'une heure ou bien en bateau à moteur d'environ 6 heures. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Nous espérons que les informations sur Anambas enrichiront vos connaissances sur la beauté des îles de la République d'Indonésie. Merci à tous et à bientôt.
Voice of Indonesia.
Aku kesepian. kemana ku melangkah, suatu saat pasti kan ku temukan bintang keabadian.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était une chanson de Roni Sianturi intitulée L'étoile de l'éternité. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voanews.id. Chers amis, pour la rubrique suivante, voici L'Indonésie en couleur.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur. Le 29 mars est désigné comme la journée philatélique de l'Indonésie. Historiquement, le 29 mars 1922, un groupe de philatélistes fonda un club philatélique à Jakarta, Batavia à cette époque, qu'ils appelèrent Postzegel Verzamelaars Club Batavia. Cette association devint le lieu d'un mouvement organisé nationalement qui fut incorporé dans la formation de Nederlandsche Indische Vereniging van Postzegel Verzamelaars le 15 août 1940 suite de Postzegel Verzamelaars Club Batavia est basé à Jakarta. Après la proclamation de l'indépendance de la République d'Indonésie, le nom de l'association a été changé en Algemene Vereniging Strasbourg Philatelisten in Indonesia. En 1953, elle est devenue l'Association des philatélistes indonésiens. En 1965, elle est devenue l'Association des philatélistes d'Indonésie, PPI, et finalement, en 1985, elle est devenue l'Association des philatélistes indonésiens, PFI. Afin de commémorer la Journée nationale philatélique et d'accueillir les Jeux asiatiques 2018 dans deux grandes villes indonésiennes, Palembang et Jakarta, Pos Indonesia a publié un timbre spécial de la série des Jeux asiatiques de 2018. L'événement a été officiellement lancé par le gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan, le jeudi 15 février 2018. Lors du lancement des timbres de l'édition des Jeux asiatiques de 2018, un sport indonésien typique a été présenté, à savoir le pencak silat. Six combattants vêtus de noir montrent leur dextérité dans les arts martiaux à main nue et l'utilisation d'armes. De plus, il y a 11 des 42 branches de sport présentées sur ce timbre des Jeux asiatiques de 2018. Le directeur de PT Pos Indonesia Régional 4 à Jakarta, Pupung Purnama, a indiqué que 4 types d'objets philatéliques ont été lancés. Pos Indonesia accueille la mini-feuille des Jeux asiatiques de 2018, la couverture du premier jour, le bloc feuillet et l'édition spéciale d'emballage. En ce qui concerne le prix, les timbres de 18 ans de ces Jeux asiatiques 2018 pour les mini-feuilles et 54 000 rupiah par feuille, feuille de souvenir Jakarta et Palembang et 15 000 rupiah par feuille et la couverture du premier jour est vendue 37 000 rupiah. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Bisa menjadi
Chers amis dans le monde entier, merci d'être fidèles à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était une chanson intitulée L'intro chantée par Rosa. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Serviteur, bonsoir. Voici donc le magazine musical. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons un chanteur Krishna. Le chanteur dont le nom complet est Krishmansyah Hadi est un chanteur avec une voix distincte. L'une de ses chansons populaires interprétées par Krishna est Galih Eratna, composée par Guru Soekarno Putra, le fils du premier président de la République d'Indonésie, Insinyur Soekarno, est sortie en 1989. La chanson qui est la bande sonore du film intitulé Gita Cinta dari SMA raconte l'histoire de l'amour d'un couple Galih et Ratna. En 2017, le film a été republié de même que la bande sonore. Toujours en utilisant la chanson Galih et Ratna, mais chantée par le groupe musical GAK avec un tempo plus rapide et une musique plus moderne. Bon, serviteur, voici donc la chanson de Krishna intitulée Galih Eratna. Bon écoute.
Oh, Galih,
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.